Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons dans quelques minutes parler politique, évidemment, sujet de société aussi, avec Frédéric Lapointe qui est en studio avec nous. Bonjour Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Président du Mouvement national des Québécois. Rémi Villemur, doctorant en sociologie, mais aussi détenteur d'une maîtrise en histoire. Il est avec nous dans le coin droit ici.
Pesant 200 livres aux dernières nouvelles.
Aux dernières nouvelles? Bon, alors nos auditeurs sont informés. Un peu plus tard, nous jaserons aussi politique américaine tous ensemble avec Luc Laliberté, mais nous avons pensé d'abord... avoir une petite conversation avec celle qui a fait les nouvelles d'une façon étonnante cette semaine. Suzanne Lachance, on y reviendra, mais juste pour vous dire que Suzanne Lachance veut obtenir sa citoyenneté française, mais d'une façon tout à fait, et pour des motifs tout à fait particuliers. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Suzanne Lachance.
Bonjour Nick Payne.
Alors vous avez été, vous, impliqué aussi en politique municipale, notamment à Longueuil. C'était lorsque Caroline Saint-Hilaire était mairesse, est-ce que je me trompe?
Oui, c'est ça. Le mandat de 2009 à 2013.
Voilà, et vous avez aussi été au bureau du protecteur du citoyen, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Bon,
oui,
et là maintenant, vous regardez tout ça et vous êtes peut-être dans une phase, pardon de vous le demander, êtes-vous dans une retraite paisible et confortable?
Quand même très impliqué.
Bien, je vous pose la question parce qu'en tout cas, manifestement, vous avez le temps de vous poser des questions de fond et d'entreprendre des démarches comme celle-là. Donc, vous êtes longueuilloise, vous êtes née au Québec, vous avez vécu toute votre vie ici, si je ne me trompe pas. Et
oui.
Là, vous dites que ce projet, vous l'aviez à l'esprit depuis de très nombreuses années. Vous avez vu une femme qui s'appelle Marie-Mance Vallée, elle aussi,
oui,
faire la même démarche, vouloir obtenir sa citoyenneté française comme, si vous voulez, descendante des colons de la Nouvelle-France, si on veut. Et en 2010, ça n'avait pas marché. Et là, maintenant, il y a du nouveau. Expliquez-nous pourquoi vous en remettez. Là, et maintenant, vraiment, vous y allez, vous entreprenez la démarche. Et pour quelles raisons? Et qu'est-ce qui la rend plus possible, d'après vous, maintenant?
D'accord. Alors, ça fait depuis beaucoup plus longtemps là, que Mme Vallée, là, que le cas de Mme Vallée, que je m'intéresse à cette question-là. En fait, c'est depuis les années 80, alors que M. François Lubrina, qui était le député des Français de l'étranger et qui s'adonne aussi à être vétérinaire, avait une émission à la télé que je suivais assidûment, parce que les animaux m'intéressent. Alors, puis à un moment donné, il change de sujet, puis il aborde cette question-là. Puis selon lui, les Québécois devraient pouvoir avoir la nationalité française. Et puis, bon, il aborde un argumentaire.
Alors, et c'est déjà drôle en partant. On parle d'un vétérinaire à la télévision, mais qui est aussi,
oui,
donc...
Député des Français de l'étranger.
Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait,
oui,
particulier. Alors,
oui,
là, il vous inspire en disant ça. Vous, vous dites, moi, je me sens moins... je me sens pas vraiment canadienne, je me sens davantage française. Hein? C'est pour ça que ça vous appelle.
Oui. En fait, moi, mon sentiment d'appartenance au Canada, là, il est à peu près nul. Alors, j'ai un sentiment d'appartenance au Québec, mais au Canada, non, parce que de toute façon, je trouve que c'est un pays qui malmène, dans le fond, la communauté francophone. Alors, quand on est francophone, c'est très difficile d'avoir un sentiment d'appartenance au Canada. En tout cas, pour ma part, je n'en ai pas. Et puis, j'ai aussi grandi dans la littérature française. Il faut se reporter aussi à l'époque où la jeunesse, c'est-à-dire la littérature jeunesse québécoise, était beaucoup moins abondante qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et on se tournait vers la France, hein? Oui, c'est ça.
Oui, on se tournait beaucoup vers la France. Alors, on n'avait que des ouvrages français à notre portée. Alors, moi, dans le fond, j'ai vécu là-dedans. J'ai fait le cours classique aussi, qui dans le fond, mettait beaucoup l'accent sur la littérature française, l'histoire de la France. Et
alors, bref, vous vous sentez de...
un imaginaire...
De cette
mon
culture-là.
Mon imaginaire habitait la France.
Oui, c'est ça. Mais alors là, vous, avez-vous déjà fait une démarche avant celle-ci là, pour tenter d'obtenir la citoyenneté ou là, vous entreprenez ça maintenant?
Ben, en fait, j'ai déposé une demande en 2021, mais le dossier a été... arrêté parce qu'il n'était pas complet. Alors, on m'a demandé de refaire une nouvelle demande, ce que j'ai fait cette année. J'ai déposé une nouvelle demande en 2024.
Et alors, qu'avez-vous appris là, à partir de 2021 ou un peu avant qui vous donne espoir que ça marche? Est-ce que ce sont les travaux de cet historien, Édouard Baraton,
ben oui.
qui, lui, si je comprends bien, parle par exemple de Louis XIV qui avait indiqué que les descendants des Français, qui resteraient ici, bien sûr, là, dans ce qui allait devenir le Canada qu'on connaît aujourd'hui, après 1763, après le traité de Paris, donc, seraient censés et réputés naturels français et pourraient, donc, comme tels, retourner en France, par exemple, quand bon leur semblerait, sans être tenus de prendre aucune lettre de déclaration ni de naturalité. Ça, ce sont ces mots, entre guillemets. Est-ce que c'est M. Baraton qui vous apprend ça? Est-ce que c'est à partir de ça que
vous...
Expliquez-nous.
Oui, tout à fait, parce que n'eût été de M. Baraton, je n'aurais pas continué la démarche. Parce que quand on questionnait les historiens, la porte était fermée. Alors moi, ce qu'on me répondait, c'était les Français qui ont décidé de rester ici au moment du traité de Paris sont réputés avoir renoncé à la nationalité française. Alors ça, c'était la réponse que j'avais. Puis, à un moment donné, ben j'ai été en contact avec un journaliste français qui s'intéressait à la question. Et c'est ce journaliste, d'ailleurs, qui a déniché M. Baraton. Ils se sont mis à discuter de cette question-là.
M. Baraton, qui est... pardon, je vous interromps pour faire le lien avec le vétérinaire, qui est un animal rare. Hein? il est un double docteur en... Deux doctorants en histoire, si je comprends bien.
Oui.
Il fouille son dossier, c'est le moins qu'on puisse dire.
Vous savez, l'expression rat de bibliothèque, existe. Oui. Alors, M. Baraton, lui, c'est un rat d'archives, là, je vous le dis. Il fouille beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est pour ça que moi, je vais pas m'aventurer là sur le terrain juridique ou historique. C'est vraiment lui l'expert. Et lui, il a publié là-dessus et c'est une base solide, là, dans le fond.
Parce que
je lui fais confiance.
C'est peut-être ce qu'on peine à comprendre, là, comment on passe de l'histoire au juridique, au fond, parce que c'est bien beau qu'un historien nous raconte l'histoire, mais comment cela pourra-t-il se concrétiser maintenant, en vertu de quoi la France pourrait dire « Tiens, ben oui, vous êtes citoyenne française ». Mais sortons, allons sur l'angle, en terminant, Suzanne Lachance, plus peut-être politique ou philosophique, je ne sais trop.
Oui.
Est-ce que vous inscrivez aussi dans une démarche, est-ce que votre démarche s'inscrit dans le contexte actuel qui est une forme de déliquescence ou de recul hein, de la culture canadienne-française à Montréal et dans les environs, vous en êtes, vous? Est-ce que ça vous motive encore davantage à retourner vers la mère patrie, si je peux m'exprimer comme ça?
Ben, écoutez, il y en a certains qui pourraient y trouver une motivation, mais moi, comme je vous dis, ça fait quand même longtemps là, que j'ai cette question-là en tête. Alors, ça n'avait rien à voir avec la situation du français d'ici. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, la thèse de M. Baraton, elle s'ouvre à beaucoup plus grand que les Québécois. Hein. Elle touche, dans le fond, tous les Français qui étaient ici, là, en Nouvelle-France, en 1763. Ça veut dire que ça peut toucher des Ontariens, ça peut toucher des gens du Manitoba.
Ils sont aux États-Unis aussi, tant qu'à...
Oui, aux États-Unis et tout ça. Donc, la thèse est complètement différente. Puis, je vous dirais que dans mon cas, non, ça n'a rien à voir avec la situation.
Alors, il n'y a pas une démarche politique derrière. C'est vraiment personnel. Vous avez envie d'être citoyenne française parce que vous trouveriez que c'est en accord avec votre identité culturelle, au fond.
Exactement, c'est ça. Alors, moi, mon identité culturelle, elle s'est bâtie autour de la culture française.
Et essuyez-vous avez-vous, je ne sais pas, essuyez des colibets? On sait que les réseaux sociaux, avez-vous pu voir si des gens se moquent un peu en disant « Ah, voyons donc la France, mais qu'est-ce que c'est que cette lubie? » Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous avez des appuis? Sentez-vous une vague de sympathie?
Oh oui, beaucoup. Ça me dépasse, là. Franchement, je veux dire, les appuis sont beaucoup plus importants que les moqueries, dans le fond, parce que je ne me suis pas vraiment attardée là, aux réseaux sociaux. Bon, j'en ai peut-être vu un ou deux, mais qui me renvoyaient en France, mais moi, ça fait mon affaire.
Ah, retournez chez vous. Alors, ouais, c'est ça.
Alors, ce n'est pas une insulte pour moi. Alors, non, mais c'est certain qu'il y a des gens qui voient ça d'un œil plutôt négatif, mais vous savez, c'est une démarche très personnelle. C'est rien de collectif. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. En réalité, c'est...
Ouais, vous ne lancez pas un mouvement politique.
Il n'y a pas d'automatisme là-dedans. Là. Ouais, ça, c'est important de le comprendre.
Très intéressant. Ben, Suzanne Lachance, on va suivre de près vos pérégrinations dans le dossier historico-juridique peut-être, en tout cas autour de votre citoyenneté. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de nous en parler quelques minutes ce matin, puis bonne chance.
Ben merci, puis merci de l'intérêt aussi.
Ben franchement, c'est très intéressant votre truc, en tout cas moi je trouve. Alors bref, okay. Au plaisir, merci Suzanne Lachance.
Oui, au plaisir, merci.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Rémi Villemur, attaché à l'histoire? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça vous inspire, une démarche comme celle-là?
Ben, c'est mignon. C'est mignon, mais sans plus. Écoutez, moi, je veux dire, ce que je veux devenir, c'est citoyen québécois. Ouais. En attendant, c'est évident que si j'avais l'opportunité de devenir citoyen français,
chez Mme Lachance, on sent pas là, que c'est une volonté de mouvement politique là, de faire en sorte que des millions de Québécois le fassent. C'est strictement personnel.
Ben, alors, je salue ça. Si ça la regarde, c'est bien. J'encourage ça, mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est si c'était un mouvement politique à ce moment-là, et j'aimerais mieux qu'on mette des énergies à devenir citoyen québécois. Mais je m'identifie quand même à ce qu'elle ressent. Évidemment, moi aussi, je me sens pas canadien. J'ai pas l'impression que le régime canadien offre quelque faveur que ce soit à l'une de ces, hein, pourtant, deux nations fondatrices, qui est le français, qui est la nation française, en fait. J'ai pas l'impression qu'on est bien dans ce pays-là, mais la solution, c'est vraiment la citoyenneté québécoise.
Ah oui, donc
évidemment.
La mère patrie, vous, Frédéric Lapointe, qu'est-ce que ça vous dit, une démarche comme celle-là?
D'abord, elle a fait quand même tache d'huile. Hein? On m'a contacté au courant de la semaine pour évoquer cette initiative. Certaines personnes me disant même vouloir l'imiter. Mais
Parce que pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur de Montréal, il y a vraiment en ce moment à Montréal, chez les francophones, quelque chose qui se passe. Là. Des gens qui prennent conscience d'une forme de marginalisation dont nous parlons depuis longtemps dans cette émission, mais dont on s'autorise à parler maintenant dans d'autres médias depuis quelques mois.
Exact. Et là, je ne peux pas faire autrement qu'évaluer la signification politique de telles initiatives et de la discussion qu'on peut en faire. Au fond, la discussion dans la rue, dans les corridors de nos écoles secondaires, elle tourne autour de quoi? Ouais. Elle peut être en anglais, elle peut être en français. L'enjeu est moins celui de la langue. C'est quoi? Ça tourne autour de la reconnaissance de l'existence même d'une nation québécoise et de sa légitimité. Hein, c'est ça le sujet de discussion. Des personnes disant, ben, au fond, vous n'êtes, vous, la majorité, là, vous êtes une minorité comme les autres, vous n'existez pas davantage que les autres, votre culture n'est pas plus importante que celle des autres. Et ce discours, malheureusement, s'en trouverait renforcé par un quelconque engouement de recherche de citoyenneté française par les gens qui sont généalogiquement plus anciens au Québec, pour ne pas dire autochtones à la terre du Québec.
Alors, attendez-vous, vous pensez que le fait d'être en cette quête-là, là, d'une citoyenneté autre, française dans ce cas-ci, nuirait à l'établissement d'une citoyenneté québécoise solide? Là?
Ah, je suis convaincu que que nos origines françaises, que notre appartenance dans un espace francophone soit valorisée, c'est une chose. Permettez-moi le terme anglais, la recherche d'un opting out n'a absolument pas pour effet de convaincre nos concitoyens et nos voisins que la nation québécoise est une nation forte, qu'elle est autochtone au Québec, qu'elle a pour vocation d'intégrer des gens de diverses origines, et donc une espèce de repli généalogique ou de repli ethnique, ethnico-culturel, ça ne va pas dans la bonne direction. Je lis encore aujourd'hui trop souvent, peut-être que je suis trop sur Twitter, comme dirait Jean-François Lisée, des commentaires disant « Ah, mais ces gens qui nous dérangent, pourquoi ne retournent-ils pas en France? » C'est un commentaire qu'on voit de façon récurrente. Et s'il y en a un qui le dit, il y en a peut-être 10 000 qui le pensent.
Bon, on n'a pas attendu Mme Lachance pour...
Non, effectivement.
mais dire des choses comme celle-là.
Vous comprenez que c'est cette corde sur laquelle on est en train de jouer.
Mais terminons là-dessus, Rémi Villemur. Ce que je vais dire là, ce n'est pas le propos de Mme Lachance. Hein, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir peut-être une quête, justement, une recherche d'une vraie citoyenneté, parce qu'on a l'impression que finalement, la citoyenneté canadienne ne nous convient pas, puis on sait ce qui advient de la citoyenneté québécoise pour le moment. Elle est très friable et indéfinissable. Il n'y a pas un vide, là, qu'il est naturel de chercher à combler, au fond.
C'est sûr qu'il y a un vide. Il y a aussi peut-être...
En fait, c'est notre réalité à nous, Québécois, cette espèce de vide de citoyenneté-là. Peut-être qu'on est trop habitués à ça aussi, qu'il y a des gens comme Mme Lachance... s'en aperçoivent et cherchent à le combler.
Mais on a besoin d'un symbole de force, de puissance. Hein? Et évidemment, si on est Québécois, indépendantiste, et même si on n'est pas indépendantiste, mais qu'on constate quand même, parce que ça commence à s'accumuler, je parle des preuves, que les francophones n'ont pas leur place au Canada, ben la citoyenneté canadienne, c'est pas une option. Donc, on a besoin d'une revanche, on a besoin d'un esprit fort. C'est pour ça que les travaux d'Édouard Baraton, ça prend la forme d'une revanche, parce que là, il arrive avec de la documentation, puis il dit, regardez, là, c'est pas juste un rêve, c'est peut-être possible. Mais c'est aussi qu'on a besoin d'un symbole fort. On a besoin d'avoir l'impression que dans ce combat-là qu'on mène face au Canada, eh bien, on est défendu par quelque chose de puissant, quelque chose qui a une légitimité.
On appelle De Gaulle, là, dans le fond.
C'est ça, De Gaulle est parti, puis il y a déjà trop longtemps. Mais là, c'est la France qui se présente, et on dira ce qu'on voudra d'Emmanuel Macron. Hein. Moi, je suis assez critique. C'est quand même quelqu'un qui, encore aujourd'hui, démontre que la France est relativement forte. Dans certains, c'est un pays qui affiche sa culture, qui affiche son histoire, qui se défend, qui vient de faire toute une sortie la semaine dernière dans le dossier de l'Ukraine, hein, la France qui dit on est prêt à faire la guerre. Donc, toute cette symbolique-là, ça nous échappe au Québec, hein, dans notre mentalité provinciale, dans nos réflexes de provinciaux aussi. Donc, moi, je peux comprendre cette initiative-là.
Très intéressant. Restons ensemble, mais ajoutons à notre trio pour en faire un quatuor. Luc Laliberté, il est chroniqueur à Québecor, il est professeur aussi. Alors, il est imbibé, imprégné, il ruisselle la politique américaine jusqu'au bout des cheveux. Bonjour, Luc Laliberté.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, évidemment, on voulait vous parler du discours sur l'état de l'Union de M. Biden, que tout le monde attendait, là, comme une sorte de Super Bowl de la politique américaine, parce qu'on voulait voir si M. Biden est bel et bien aussi abîmé, vieillissant, fatigué, erratique, que plusieurs le disent. Et là, on a entendu autre chose, non? Est-ce que je me trompe?
Non, c'est intéressant comme performance. Si on parle d'une capture d'écran ou d'un moment dans le temps, moi, ce que je crois, c'est que Biden a performé suffisamment bien pour rassurer, ne serait-ce que temporairement ou partiellement, ses partisans, puis les indépendants ou les républicains que j'appellerais plus modérés qui pourraient être tentés de s'éloigner de Trump. Mais ça demeure un épisode. Ce sont des choses qu'il ne nous montre qu'à l'occasion. Il y a encore, quoi, huit mois et demi qui nous séparent de l'élection du mois de novembre. Est-il capable de continuer sur cette lancée? Mais à n'en point douter, hein, quand on écoute un discours sur l'état de l'Union, puis c'est devenu très théâtral avec les années. C'est un peu un spectacle.
Ben c'est presque caricatural, hein? C'est les bons et les méchants, les cris de ralliement, Ouais.
Voilà, mais c'est devenu ce moment. On espère souvent, dans le jargon, on espère un « reset ». Donc, on repart, on remet les compteurs à zéro, puis on tente, surtout en année électorale, ce qui est ni plus ni moins qu'un sprint malgré les huit mois. Donc, Joe Biden est au plus mal dans les sondages. Il est régulièrement à 38, 39, 40%. C'est une bonne semaine pour Joe Biden. Puis, ce qui ressort comme perception continuellement, c'est que même chez ses partisans, même chez les démocrates purs et durs, c'est il n'est plus à la hauteur. C'est ce qu'il dégage ou c'est ce qu'on entretient comme image. Donc, on a vu effectivement un Biden un peu fougueux, puis si on me permet le terme, la vulgarisation, un peu baveux même à l'occasion.
Ah oui.
Il a pointé du doigt les juges de la Cour suprême. Il y en a un qui s'est absenté d'ailleurs, M. Thomas n'était pas là. Donc, il les a pointés les huit en affirmant clairement son désaccord, son intention de légiférer, ne serait-ce que sur l'avortement dans un deuxième mandat.
Il les a pointés du doigt, ils étaient dans la salle.
Voilà, donc dans le discours sur l'état de l'Union, on a bien sûr devant lui, on le sait, républicains et démocrates, mais il y a les chefs d'état-major, il y a donc des dirigeants militaires, il y a les juges de la Cour suprême, il y a un certain nombre d'invités dont on a demandé symboliquement la présence pour illustrer le discours. Mais donc, on a eu un Biden capable de pointer les gens du doigt et aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que Biden, le risque pour son équipe, puis j'utilise bien le terme risque, c'est quand il s'éloigne de ce qu'on lui a écrit comme discours. Quand il improvise, la plupart du temps, c'est là où...
C'est là où le Mexique devient la Turquie et puis toutes sortes de choses comme ça. Hein?
Oui, ou le contraire. C'est des choses qu'il a fait pendant toute sa carrière. Ça fait très longtemps que je le suis, Joe Biden. Maintenant, on met ça sur le compte de l'âge. Mais il était vice-président d'Obama et c'est ce que craignait Obama. Et même comme sénateur, ça lui arrivait. C'est quelqu'un qui aime bien parler, c'est quelqu'un qui aimait bien les projecteurs. Puis quand il improvise, ça lui arrive comme ça, disons, de s'en mêler dans ses pinceaux. Alors, il a fait ça. Il a répondu aux critiques des républicains à chaud, interrompant son discours pour improviser. Et même là, je pense pas qu'il ait fait d'erreurs majeures. Puis ça nous montrait qu'il était, entre guillemets, très réveillé, que ses réflexes ou son esprit étaient aiguisés. Donc, c'est une belle performance avec un léger point faible, à mon avis. C'est quelque chose qu'il tentait de corriger. Mais on a vu dans la salle des seuls chez les démocrates qui sont restés assis pendant la totalité de son discours. Ah. Ça a été les élus les plus progressistes, ceux dont on dit qu'ils font partie du fameux squad. Ces gens-là boudent actuellement l'administration Biden, puis ils ont de bonnes raisons de le faire. On trouve que Biden a atteint ses limites dans ce qu'on pourrait appeler l'aide aux civils palestiniens. Mm-hmm. Et on a affiché notre désaccord au vu de la planète. C'était plus que de dire on n'est pas en accord avec Biden, de lui demander à le rencontrer. On a carrément fait comme les républicains. Et ça a montré, à la toute fin du discours, un Biden qui intervient justement sur la question d'Israël et de la Palestine, qui dit « J'ai demandé à notre armée, à nos forces armées, de construire un port, ça va prendre des semaines à faire, mais pour acheminer l'aide aux Palestiniens, aux civils, ça démontrait, c'est une bonne intention, c'est ce que Biden voulait offrir de positif dans ce dossier-là, mais ça nous montre en même temps qu'il a des limites à l'influence qu'il peut exercer sur Netanyahou. » Donc, on avait ça se complétait comme perception, les limites de Biden face à Netanyahou et les critiques d'une partie de l'aile progressiste des démocrates. Ça, pour Biden, c'est peut-être le côté plus sombre ou négatif de ce discours sur l'état de l'Union.
Oui, qui annonce un peu moins des lendemains qui chantent au minimum. À l'interne, c'est compliqué. En terminant sur Biden, est-ce que il vient de changer quelque chose? Vient-il de gagner du temps? C'était quand même vous me corrigerez si je me trompe, mais assez convenu. C'était une suite de slogans, là, le discours. Il y a peut-être ces mots à l'endroit de M. Trump, hein, sans le nommer. Vous ne pouvez pas aimer votre pays seulement lorsque vous gagnez. C'est des formules fortes, mais bon, après, est-ce que ça change l'issue de la prochaine élection, ça, Luc Laliberté?
Ben, moi, je pense que ce que ça lui fournit, ce que ça lui donne, c'est une base sur laquelle il peut construire. Et c'est la raison pour laquelle je disais, c'est changer des perceptions aussi négatives pour Biden, c'est presque une mission impossible. Il vise essentiellement à passer un message aux indépendants, puis aux modérés des deux camps, autant chez les démocrates que chez les républicains, c'est là où ça peut se jouer. S'il parvient à maintenir ce niveau d'énergie, cette fougue, puis le petit côté un peu plus agressif ou en mode attaque, ben ça augmente ses chances dans les états pivots, par exemple, pour le 5 novembre. Mais, je répète, c'est une capture d'écran. Hein, c'est un moment dans le temps. Est-il capable de maintenir ça? Moi, c'est un des doutes que j'ai sur Biden. Peut-il soutenir le rythme d'une vraie campagne électorale?
Vous avez appelé à sa sortie, vous, Luc Laliberté. On se souvient de ça. Vous avez dit il est trop fatigué. Ce n'est plus l'homme de la situation.
Voilà. Moi, j'ai toujours pensé qu'en 2020, on s'était rallié derrière lui pour tasser Donald Trump. Et Biden avait même dit, il avait laissé entendre pendant la campagne électorale, je ne serai là que pour un mandat. Puis ensuite, sous-entendant, je m'écarterai du chemin. On préparera la relève. Mais là, il semble convaincu. De toute façon, il est trop tard maintenant, ou en tout cas, il est très tard. Donc, on va aller en campagne avec lui et cette campagne-là va être plus difficile que celle de 2020. Celle de 2020, COVID oblige, il l'a menée de son sous-sol ou en tout cas, il l'a menée sans affronter les rigueurs de nombreux vols et de nombreux déplacements, de nombreux discours. Donc, moi, j'ai hâte de voir s'il peut maintenir ce qu'il nous a offert cette semaine.
En quelques mots, en terminant, Luc, la liberté, pendant qu'on vous a, parlons un peu des Républicains. Qu'est-ce que vous pensez? Ou enfin, peut-être des extras de l'entourage, comment dire. Parlons de Nikki Haley, bref. Est-ce que, que pensez-vous d'une possible candidature de cette femme comme indépendante? Là? C'est la rumeur en ce moment.
Ouais, c'est ça, c'est le mouvement No Labels qui l'aurait approché pour une candidature indépendante. Si on a bien écouté le contenu de son allocution cette semaine, quand elle abandonne après le super mardi, le mercredi matin, Mme Haley a rappelé qu'elle est une républicaine. Donc, elle a fait deux choses. Elle s'est positionnée comme républicaine. Moi, je pense que c'est un message un peu ce qu'avait fait Ron DeSantis, c'est penser à moi en 2028. Hein, ce n'est peut-être que partie remise. Ah. Et de l'autre côté, elle a pris la peine de se dissocier de M. Trump en lui demandant offrir quelque chose à mes partisans ou aux républicains déçus. Et si Biden a des difficultés avec certains de ses progressistes, c'est la limite de la candidature de Donald Trump. C'est qu'il va devoir faire plus que ce qu'il fait depuis le début du calendrier des primaires, c'est-à-dire aller chercher les plus durs, les conservateurs. Il se déplace pour aller voter, puis dans les primaires, ça rapporte. À l'élection générale, il doit aller chercher les modérés et les quelques indépendants qu'il reste. Et avec le discours qu'il tient présentement, ben, il y a des électeurs de Mme Haley qui ont dit « Nous, on va se boucher les oreilles, se pincer le nez, puis on va voter Biden s'il le faut. » Donc, Mme Haley a rappelé ce message-là à Donald Trump dans son allocution. Et écoute, si jamais je devais me tromper, ben, on me le ramènera, puis je ferai amende honorable. Je reconnaîtrai l'erreur, mais je ne la vois pas comme indépendante en 2024.
On vous appellera, Luc La Liberté, chroniqueur chez Québécois, à Cube Radio, dans les journaux, spécialiste de politique américaine. Merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler de politique américaine. À très bientôt.
À très bientôt. Une bonne fin de semaine.
Vous aussi, Frédéric Lapointe. Qu'avez-vous pensé de ce Biden sur les stéroïdes, du moins momentanément?
Oui, c'est ça. Le niveau de préparation a dû être extrême, à la fois préparation physique et préparation du texte, préparation des réactions.
Préparation physique, vous dire, il a fait une sieste dans l'après-midi.
je suis convaincu qu'il y a une préparation physique pour un tel événement. L'importance est telle pour le Parti démocrate qu'ils n'ont dû ménager aucun effort. D'ailleurs, ils étaient fort heureux hein, de la performance. Le spin médiatique a été très, très appuyé.
Mais tout le monde applaudissait à tout rompre, à tout bout de champ.
Forcément. C'est un travail partisan. Cela dit, pour ma part, je continue à penser que le Parti démocrate a encore le temps, du moment que maintenant il y a une certitude quant à l'investiture de Donald Trump, que le Parti démocrate a maintenant le loisir de considérer ses options. On est à un épisode de santé réel ou fictif de Joe Biden pour que les démocrates aillent dans une autre direction. Donc, le suspense est toujours
forcé,
présent.
En fait. Ouais.
Ben, qu'il soit forcé ou qu'il s'y efforce, pour le dire comme ça. Puis l'autre élément qui produisait un contraste dans cette soirée, c'est le discours de réplique hein, d'une représentante républicaine qui avait l'air de nous annoncer l'apocalypse zombie, la chute des astéroïdes mettant fin à l'existence de l'humanité. C'était aussi un spectacle hors norme là, que de voir le discours de réplique avec la voix chevrotante et l'espèce de dramatisation
répété,
incroyable.
Hein? Oui, dramatiser. Justin Trudeau ne pourrait pas faire mieux. Là. C'était un peu trudeauesque comme manière, comme espèce de comédie, de talent d'acteur, un peu, comment dire, de jeu à gros traits. Là.
Oui, c'était un numéro probablement lui aussi fort, fort entraîné, qui ne répondait évidemment pas directement au discours, mais qui présentait des problématiques là, vécues par les Américains moyens. Ce qui est toujours exceptionnel dans ce temps-là, dans les répliques, c'est qu'il n'y a absolument aucune démonstration de l'alternative, c'est-à-dire voici des problèmes, hein, des problèmes qui existent toujours par ailleurs, et voici que le président américain Biden ne les a pas résolus. OK, mais vos politiques, hein, messieurs, mesdames, les républicains, de quelle manière est-ce que ça va y répondre davantage? Hein, cette démonstration-là n'est jamais faite, mais c'est le bénéfice d'être dans l'opposition,
ben,
je
oui,
présume.
C'est ça. Rémi Villemur, alors, la question qui était entre les lignes à travers tout ça, c'est toujours, encore et toujours, M. Biden est-il encore capable de remplir, de jouer le rôle correctement? Est-il cognitivement en forme? Hein? C'est ça encore plus qui se pose comme question. Là, on l'a vu hein, physiquement toujours se mouvoir difficilement. On a toujours l'impression qu'il va tomber. Ou, bon, clairement, physiquement, c'est difficile pour M. Biden. Par contre, le propos était clair, il y avait de l'énergie, la voix était forte. Est-ce qu'on peut en conclure qu'il est en forme ou est-ce qu'on peut se dire que c'est un vieux pro qui n'a pas perdu la main lorsque vient le temps de faire un discours partisan?
Non, mais écoutez, là, c'est pas parce que le discours de l'Union a été intéressant comme exercice puis qu'il l'a réussi qu'il faut oublier.
Ah ben moi, j'ai pas dit que c'était intéressant. Hein,
non, mais enfin, c'est parce que j'ai entendu
livré,
ça toute la semaine. Ouais, ben, toute la semaine, j'ai entendu ça. Là. Bon, ça y est, les doutes
existent.
Oui, exactement. Non, écoutez, là, je sais pas à quoi ils l'ont piqué. Ils ont dû lui piquer des vitamines toute l'après-midi. Ils ont dû lui donner 3 siestes. Ils ont dû une séance d'hypnose. Mais demain matin, on est toujours avec les mêmes problèmes. Puis bon, la théorie selon laquelle il n'a pas de problème cognitif, il a toujours été un peu égaré dans sa façon. Il n'a pas toujours... c'est pas toujours comporté comme il le fait depuis 2-3 ans. Là. Je m'excuse, mais il arrive à certains endroits, il présente son fils qui est mort alors que c'est sa fille. Il serre la main dans le vide, il tombe à vélo à une vitesse de 1 km/h. Ça commence à s'accumuler. Quand il sort de l'avion, il faut l'observer dans sa gestuelle. Il ressemble à une vieille poupée, là, G.I. Joe des années 40. Là, il lève, on dirait qu'il va craquer en bougeant ses articles. C'est un homme qui est physiquement terminé.
Hypothéqué,
là.
Oui, c'est ça.
Très hypothéqué.
On ne parle pas d'âge ici, hein?
Non,
on parle vraiment
de
conditions.
Pas du tout, pas du tout. Moi, je connais Gilles Proulx, est plus en forme que lui. Gilles Proulx a 50 plus. Donc, Gilles Proulx, peut-être pour...
Comme président des
États-Unis. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec Frédéric Lapointe sur une chose.
Ça serait foutu pour le festival Juste pour rire, en tout cas, si on veut s'exporter.
Effectivement. Mais...
Parce que Proulx a durement critiqué cette semaine.
Oui, effectivement. Ouais. Très injuste, d'ailleurs, comme texte, mais bon.
On y revient.
Au niveau de l'idée qu'il reste peut-être du temps au Parti démocrate pour trouver un autre candidat. Moi, je sais pas. Là. Je connais pas. Je suis pas un féru d'histoire de politique américaine, mais est-il déjà arrivé qu'on trouve quelqu'un à si peu de mois d'avis?
Déjà, il faudrait qu'il y ait quelqu'un sur les rangs.
Ben, c'est parce que c'est ça. Là. Il faudrait qu'on nous sorte quelqu'un qui a tout préparé ça dans l'ombre sans qu'on le sache. Il faut ramasser des millions, voire des milliards de dollars là, pour faire ça, pour procéder à un exercice pareil. Donc, moi, je pense qu'on l'a, le candidat qui est le président sortant. Et ça en dit long sur l'état de la politique aux États-Unis, sur l'état du Parti démocrate aussi. Hein. Je rappelle quand même que la vice-présidente était pressentie pour être celle qui allait prendre le dessus, la relève. Et finalement, c'est quoi? C'est la vice-présidente la plus impopulaire de l'histoire récente des États-Unis. C'est l'équipe de candidats disponible est très faible.
Peut-être qu'elle est particulièrement, Frédéric Lapointe, impopulaire, Mme Harris, parce qu'on sait qu'il existe de véritables possibilités qu'elle se retrouve aux commandes. Et donc, par conséquent, on est plus dur avec elle qu'avec n'importe quel autre vice-président au numéro 2 ou colistier. Là.
Oui, et puis les vice-présidents ne sont pas choisis par la population. Ils sont choisis par le candidat à la présidence, une forme de colistier. Et donc, il n'y a pas un lien affectif très fort lié au processus électoral. Elle est dans une position où elle est jalousée pour le peu de pouvoir qu'elle exerce, puis elle en a à peu près pas, ce qui lui permet pas de se développer des loyautés, du crédit. Donc, c'est une position fort ingrate, mais qui est effectivement stratégique là, quand le président a 80 ans passé. Est-ce qu'elle pourrait être une candidate de remplacement? Si elle était à 80 % dans les sondages, ça aurait probablement déjà eu lieu, hein, parce que ça aurait été naturel. Est-ce qu'il y a d'autres candidats potentiels de remplacement? Ben, on peut imaginer un ancien président ou un autre reprendre du service. On peut imaginer des gouverneurs populaires reprendre du service. On peut imaginer peut-être même des... c'est le jeu auquel jouait le sénateur de la Virginie de l'Ouest lorsqu'il disait « Ah, je pourrais être un candidat indépendant à la présidence. » C'est peut-être une façon de signaler hein, à la fois au public et au Parti démocrate. Si jamais Joe Biden est malade, moi, j'ai levé la main. Hein. puis je vous ai signalé mon intérêt. C'est une façon d'exister qui n'est pas si différente de celle de Denis Coderre, d'ailleurs, qui s'annonce longtemps d'avance en disant « moi, j'y pense », mais c'est une façon de signaler son intérêt et de
c'est
se positionner.
C'est une très bonne idée, ça, Denis Coderre,
président démocrate américain.
Après Gilles Plante, décidément, vous êtes de moins en moins pertinent dans cette émission.
Non, mais on s'exporte en France, on peut peut-être s'exporter aux États-Unis aussi. Hein.
Ben c'est vrai, ben oui, le monde nous conquiert. Il est temps de conquérir le monde. Je reste avec vous, puisqu'on est à l'international, Frédéric Lapointe, nous n'avons pas parlé de, bien sûr, de la guerre en Ukraine depuis un moment à cette émission. C'était récemment l'anniversaire. Et le président Macron, Rémi Villemur en parlait à l'instant, a fait beaucoup de bruit récemment et il persiste et signe d'une certaine façon, évoquait la possibilité d'envoyer des troupes au sol là-bas, ce qui a fait beaucoup réagir. Alors le débat aussi s'accentue, je dirais, depuis un bon moment déjà, entre ceux qui sont un peu plus municois, là, c'est-à-dire ceux qui ont peur de faire trop de concessions à Vladimir Poutine pour lui donner davantage d'appétit plutôt que pour le calmer, et ceux qui, au contraire, disent « non, il faut garder la ligne dure ». Bon, bref, quelle est votre lecture des choses à ce moment-ci? Vous étiez alors notre Ukrainien
en résidence
au départ.
Oui, ce que j'avais dit à la première émission, c'était si les Ukrainiens peuvent durer 3 jours, ils peuvent durer 3 semaines. S'ils peuvent durer 3 semaines, ils peuvent durer 3 mois. S'ils tiennent 3 mois, ils vont tenir 3 ans.
Là, qu'on
on est
dit,
au bout
là,
de la deuxième année.
C'est peut-être 10 ans, là. Ouais.
C'est ça. Et ça peut être fort long. C'est un conflit qui est dynamique, même si les lignes de contact, là, elles, sont passablement statiques. Je vous signale que chacun des belligérants développe à la fois ses tactiques, son armement. Donc, on n'est pas à bout de nos surprises. Les Russes étaient très faibles dans la guerre électronique et les drones, ils ont repris du poil de la bête. Les Ukrainiens étaient très forts dans leur mobilisation initiale. C'est beaucoup plus difficile de se mobiliser de leur côté. Ils ont pris du retard parce qu'ils étaient forts auparavant. Les alliés européens étaient lents à se mobiliser, mais maintenant que l'Ukraine va mal, là, ils se mobilisent de façon beaucoup plus sérieuse. Et donc, oui, le conflit a tous les ingrédients pour durer longtemps parce que aucun des deux belligérants n'a épuisé ses forces. Et bien souvent, dans ce type de conflit, lorsqu'il y a un investissement extrêmement fort de chacune des parties, lorsqu'on est à peu près 100 000 morts de chaque côté, on peut parler que c'est un investissement très fort, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de pourparlers de paix, à moins que l'un des deux l'emporte décisivement ou que les deux protagonistes sont complètement épuisés. Et compte tenu du fait que chacun des protagonistes est par ailleurs supporté de l'extérieur, dans le cas de la Russie, ils se fournissent en obus là, en Corée du Nord et en drones du côté de l'Iran. La Chine n'est même pas encore directement et ouvertement et massivement dans le portrait. Du côté des Ukrainiens, les Européens font de plus en plus le travail, vous l'avez dit. Et donc, c'est un conflit, malheureusement, qui va s'inscrire dans la durée. C'est malheureux parce que, on a 100 000 morts en 2 ans, mais ça s'empile au même rythme. Et maintenant que, sur le plan de l'équipement, les Ukrainiens souffrent de pertes sérieuses. On parle de batteries Patriot qui ont réussi à être ciblées, visées cette semaine. On parle d'un équipement rare comme des artilleries mobiles très précises. Ils commencent à en perdre. Ils n'ont plus d'aviation. Et malgré tout ça, il faut croire que les Russes sont eux aussi très épuisés en termes de matériel parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Donc, c'est un conflit qui va malheureusement durer. Je pense qu'il faut soutenir l'Ukraine. Je pense que le Canada pourrait en faire davantage. On devrait comprendre que l'ordre international, la paix mondiale, n'est pas servie par une défaite de l'Ukraine. Manifestement, les Américains, et là je n'inclus pas seulement les Républicains, mais également les démocrates, craignent, les Américains, que la paix mondiale n'est pas davantage servie par une victoire ukrainienne. Le comportement des États-Unis...
Les États-Unis aussi, là, ça bloque l'Ukraine.
Ça bloque, mais ça bloque de tout bord, tout côté. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que du côté des démocrates, les efforts ne sont pas convaincants. Tous les moyens ne sont pas pris. La France le fait, mais la France bouge parce que l'Ukraine est en difficulté. C'est souvent, les démonstrations de force, c'est pour masquer les difficultés. Mais je reviens là-dessus. Les Américains leur optimum géopolitique semble être le match nul perpétuel. Ils ne travaillent pas à ce que l'Ukraine perde, ils ne travaillent pas à ce que la Russie perde.
Mais Rémi Villemur, est-ce que c'est pas tout ce que vient de nous, le tableau, que le portrait que vient de brosser Frédéric Lapointe, ne milite-t-il pas peut-être au contraire en faveur de l'acceptation du fait qu'il y aura là-bas une sorte de conflit avec des périodes de basse intensité, plus haute par moment, plus basse ensuite, puis qu'il faut s'y faire? Ou alors peut-être d'une solution négociée? Là, je reviens à l'esprit munichois, là, dont plusieurs se font accuser lorsqu'ils disent une telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, ce serait... On ne peut pas analyser le conflit, et je ne pense pas que Frédéric Lapointe vient de le faire, là, en fonction de la Russie et l'Ukraine. Évidemment que le gros fantôme en arrière, c'est les Américains, c'est l'Europe aussi. Et là, eux, ils ne peuvent pas se permettre de voir l'Ukraine perdre la guerre, ou même en arriver à un match nul, ou même en arriver à une espèce de compromis où les Russes seraient quand même installés sur une bonne partie du territoire ukrainien. Ça voudrait dire une défaite de l'Occident, ça. Donc, il ne faut pas non plus oublier qu'on parle de puissance, de puissance au pluriel, avec un grand P, il y a de l'orgueil qui est en jeu. Quand on regarde la stratégie, ou en tout cas la décision d'Emmanuel Macron de sortir sur la place publique et de dire ça la semaine dernière, ici, du point de vue québécois, là... ou alors du point de vue nord-américain.
Il a dit qu'il ne fallait pas exclure, donc...
Exactement, d'envoyer des troupes au sol. Ouais. De notre point de vue, ça peut sembler exagéré, ça peut sembler nous rapprocher de la Troisième Guerre mondiale, mais regardez la carte de l'Europe.
Mais là-bas aussi, ça fait un gros débat. Hein?
Oui, tout à fait, mais il faut regarder la carte de l'Europe. C'est assez facile d'avoir l'air un petit peu distant quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, de l'océan, là. La France, évidemment qu'elle ne se préoccupe pas en ce moment que la Russie s'approche de ses frontières, quoique Poutine a déjà dit que la Russie n'a pas de frontières. Je ne sais pas s'il défendrait encore cette affirmation-là aujourd'hui, mais on parle quand même d'une nation qui est impériale, qui a une histoire impériale, d'une société, la société russe, qui, en tout cas, via ses politiciens, est frustrée, n'a pas été entendue depuis 20 ans. Poutine avait un souhait très clair lorsqu'il a pris le pouvoir à la fin des années, au tournant des années 2000. Hein, si on l'avait écouté, normalement, on n'en serait pas ici. Puis ce qu'il demandait n'était pas exagéré.
Mais les accords de Minsk n'ont pas été...
Écoutez, la meilleure image qu'on peut faire, là, c'est prenez le Canada et demandez-vous si les Américains interviendraient ou pas au Canada si la Chine décidait d'installer une base militaire dans la vallée du Saint-Laurent. Si vous répondez, franchement, les Américains n'interviendraient pas, vous comprenez rien à la politique internationale.
Même aux humains en général.
Bon, alors les Russes ont demandé aucune base de l'OTAN à la frontière en Ukraine. C'est pas ce qui se dessinait, donc, puisque l'OTAN a envoyé un signal contraire. Ben, je dis pas que l'intervention en Ukraine est légitime, mais quand vous faites affaire à une grande puissance comme la Russie, ne vous attendez pas à des réflexes différents de ceux des États-Unis. On parle du même ordre de puissance. Ça, c'est du réel politique, là. On est en dehors du bien et du mal. Puis bien sûr que c'est mal d'envahir un pays, bien sûr que c'est mal. Puis en plus, venant d'un nationaliste, il n'y aurait aucun sens que je vous dise que l'intervention est légitime en Ukraine. Mais il fallait quand même essayer de comprendre un peu c'est quoi l'histoire de la Russie pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Et on l'a pas fait.
Ce qui arrive, oui, certainement. Frédéric Lapointe, ça vous inspire quelque chose en terminant sur ce sujet-là?
Oui, un coup parti. Si on accompagne l'Ukraine qui veut rejoindre l'Europe, si on accompagne l'Ukraine qui veut rejoindre l'OTAN, ben, il faut y aller jusqu'au bout, là.
Exactement.
Il faut les soutenir pour vrai, là, parce qu'effectivement, en face, il y a un adversaire décidé qui est prêt à sacrifier une grande partie de sa population, en tout cas, une grande partie de la population non russe. Hein. Ils envoient en priorité des bagnards et en priorité leur minorité. Et Vladimir Poutine lui-même se moquait un peu du nombre de morts en Ukraine en disant « Ah, oh, c'est une purge, ça va nous faire du bien, on va bien s'en tirer ». Donc, sans chercher à faire de jugement moral, on a quand même affaire à un régime pour lequel les repères moraux sont pas particulièrement les mêmes que nous. Donc, ceux qui pensent comme nous, ce sont les Ukrainiens, ceux qui se débarrassent de la corruption, ceux qui se débarrassent de l'impérialisme russe. Je pense qu'il faut être derrière eux et marquer le coup pour un siècle.
Est-ce que c'est pas candide, illusoire? Il y a quand même la menace nucléaire. Hein? M. Poutine l'a brandit occasionnellement. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer, sans envoyer des gens sur place, comme le dit le président Macron, un triomphe de l'Ukraine dans ce dossier-là? Ça risque de durer oui, des décennies.
À terme, ça, oui, d'ailleurs, les Ukrainiens disent eux-mêmes que s'ils avaient eu le matériel suffisant lors de la préparation de leur offensive, ça aurait déjà lieu.
L'Ukraine gagne, est-ce qu'on peut imaginer que les Russes rentrent chez eux en disant « Ah bon, ben c'est comme ça » et puis on ferme le dossier?
Je reviens à ce que je crois être l'analyse américaine. Et vous comprenez qu'en matière de géopolitique, il n'y a pas de transparence, donc ils ne vont pas le dire ouvertement. Non. Mais je pense que leur calcul est le suivant, et exactement ce que vous dites, une victoire de l'Ukraine est dangereuse. Et donc, ils jouent pour la nulle, et la nulle perpétuelle, en attendant que les conditions du conflit ou des conditions géopolitiques changent, en attendant, je ne sais pas moi, que Vladimir Poutine s'enferme, tombe, ou qu'il y ait c'est peut-être l'effet délétère de l'entreprise de tentative de coup d'État de Wagner. Wagner a montré la fragilité du régime russe. Et donc, peut-être que ça a campé les États-Unis dans un rôle attentiste en se disant « Ah, ben pourquoi prendre des risques? » Peut-être que le problème va se régler de lui-même, de l'intérieur de la Russie. Et donc, jouons l'horloge. Assurons-nous que les Ukrainiens tiennent le plus longtemps possible, mais non pas qu'il y ait une victoire ukrainienne telle que ça provoque des choses dangereuses. C'est malheureux. Moi, je voudrais qu'on soit davantage derrière les Ukrainiens, y compris les Américains. Il semble que leur calcul est différent.
Revenons au Québec. Rémi Villemur, ça continue de mal aller pour la CAQ. Il y a toutes sortes de choses qui roulent de travers un peu. Alors, la dernière pelure, ou peut-être même auto-pelure de bananisation en date, c'est le refus de dire clairement que le projet Northvolt était soustrait au BAP pour qu'il puisse se faire, au fond. Et peut-être, il y avait peut-être de bonnes raisons de fonctionner comme ça, mais le gouvernement n'avait jamais clairement dit les choses là-dessus. Et là, le ministre Charrette, cette semaine, nous a dit que, ben, avec le BAP, il n'y aurait pas eu de projet, puis que, par conséquent, il fallait passer outre. Et là, ça fait un peu scandale, ça fait mauvais genre, parce qu'on a l'impression que, encore une fois, la CAQ n'a pas été transparente. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a un coût à payer pour ce nouvel impair, pour les caquistes, ou alors est-ce que les Québécois sont peut-être globalement plutôt d'accord avec l'idée de ne pas s'enfarger dans la bureaucratie lorsqu'un projet d'une telle ampleur choisit le Québec pour s'installer?
OK. Ça, j'en sais rien, mais je sais une chose, c'est que si on se demande si cette dernière mésaventure-là va nuire à la CAQ, moi, j'ai quand même observé qu'on est entré dans une espèce de phase cynique où les fautes s'accumulent et on se dit « Ben oui, ben c'est la CAQ. »
Alors, on est engourdi, ça fait
plus différent. Ben c'est normal, hein. C'est pas le huitième coup de poing qui fait le plus mal.
Mais les sondages, là aussi, montrent qu'elle s'écroule, notamment dans le 4-5-0, la CAQ, hein, ça continue.
Oui, ça continue, mais je pense pas que ce soit ça qui explique cela. Mm-hmm. Ce qui est certain, c'est que la CAQ commence à montrer de plus en plus de signes d'un gouvernement qui s'embarrasse de l'appareil étatique, s'embarrasse des institutions, s'embarrasse de toute la machinerie lourde, pour employer le vocabulaire opportun, dans ce dossier-là. On dirait que c'est de la paperasse, puis on essaye de l'éviter. Puis ça, c'est des vieux réflexes de gouvernement libéral. Et ces institutions-là, ces règles-là, ces façons de procéder-là existent pour des bonnes raisons, là, en général. Donc, c'est l'espèce d'esprit Fitzgibbon là, qui commence à s'implanter un peu partout dans l'appareil gouvernemental parce que le gouvernement est un petit peu fatigué de se battre contre un système qu'il a pourtant choisi d'intégrer lui-même. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des très bonnes raisons de se pencher sur des questions environnementales sur ce projet-là. Là, on apprenait aussi qu'on pensait que les premiers contacts avaient été faits dans les derniers mois, mais ça fait plutôt 4 ans, en fait, que ce projet-là est en train de se fignoler en coulisses. Donc, on va creuser. Je pense qu'il y a du bon stock pour les journalistes d'enquête, là.
Bien, Frédéric Lapointe, il semble, en tout cas, acquis que nous avons obtenu que Northvolt veuille s'installer au Québec, un peu in extremis, parce que le ministre fédéral Champagne a des bons contacts, qu'il a pris le téléphone au bon moment, qu'il a travaillé fort. Bon, bref, c'est ce qu'on nous présente comme scénario. Et est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement du Québec rencontre ces gens-là en leur disant « Bien, venez chez nous. Alors, vous allez passer 2 ans et demi dans des bureaux avec des gens qui vont vous poser des questions. Vous allez glisser sur toutes sortes de plures de bananes. Vous allez faire un scandale dans les médias. Puis après, ça va bien aller. » Ou bien, au fond, est-ce qu'on n'avait pas raison de dire « Bon, mais pour un truc comme celui-là, le BAP, tant pis. »
Peut-être, parce que des occasions, d'un certain point de vue, des occasions industrielles de cet ordre-là ne se présentent pas tous les jours. Et le terrain en question, on ne parle pas d'un parc national, hein, c'est un terrain qui était industriel, si je ne me trompe pas, c'était chimique ou c'était de l'armement. Enfin, c'était un usage industriel quand même lourd, un terrain probablement pollué, peut-être qui s'est réhabilité avec le temps. C'est devenu une zone humide par la force des choses, mais c'était déjà de l'industrie. Moi, mon inquiétude est à un autre niveau. Justement parce que tous les gouvernements en même temps se mobilisent pour attirer des projets de construction de batteries, ça sent...
Dans le contexte où les Américains font des pieds et des... Les mesures prises par M. Biden ont déclenché une espèce de course mondiale pour attirer ces entreprises-là.
Et ça, ce genre de course ou ce genre de bulle, généralement, au bout d'un certain temps, il y a un retour à la réalité qui peut être brutal. On l'a vu récemment avec la légalisation du cannabis. Hein, tout le monde s'est lancé dans le cannabis, ça avait une valeur boursière sans bon sens, puis au bout de 2-3 ans, ça s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux fois trop de joueurs pour les besoins réels. Alors,
Le buzz est retombé.
Puis c'est arrivé dans l'histoire sur les technos, sur les tulipes, sur l'or, sur les chemins de fer, l'immobilier. Mm-hmm. C'est un classique. Et là, je crains que...
Vous êtes en train de dire qu'on prend un risque, là.
Bien sûr. Puis on le fait
dans une bulle.
On le fait avec des fonds publics gargantuesque. Ouais. On le fait, oui, en violant certaines procédures ou en jouant avec les seuils là, d'autorisation.
C'est ça. Alors, on a relevé le seuil au-delà duquel une étude est nécessaire.
Exact. Mais là, je trouve que, oui, on regarde ça puis on discute de ça, mais j'ai l'impression que la question à 5, 10 ou 15 milliards de dollars, c'est davantage celle de l'opportunité. Est-ce que ce pari-là sera gagnant? Et dans la mesure où on le fait, peut-être qu'il faut réfléchir à la manière de le gagner, de ne pas être l'entreprise de cannabis qui va fermer pour laisser l'autre faire des profits. Parce que, étant donné l'ampleur des fonds qu'on a investis là-dedans, c'est peut-être de ça dont on devrait davantage se préoccuper.
Parce que là, ils s'en construisent, des usines de batteries en Chine, en un claquement de doigts à tous les coins.
C'est la même chose, le lithium. Le lithium était à des prix de fou. Tout le monde s'est lancé dans l'exploration de lithium, l'exploitation du lithium. Puis là, tu as plus de lithium que tu en as besoin. Les prix plantent, les mines ferment. Je veux dire, c'est un classique. Là. Puis les gouvernements gagneraient, je pense, à avoir de la mémoire. Mais ça semble être une manne qui arrive, donc tout le monde va en profiter rapidement.
Rémi Villemur, je vous pose la question inverse. Est-ce qu'on manque de cohérence en se donnant des institutions comme le BAP et puis finalement en les contournant dès que la soupe devient un peu chaude? Est-ce qu'au fond, on ne devrait pas dire... Mais tant pis, des projets comme ça, on laisse ça à d'autres. Et puis nous, on est plus catholiques que le pape en termes de protection de l'environnement. Est-ce que les gens, notamment à gauche et peut-être à Québec solidaire, qui aujourd'hui déchirent leur chemise là, sur la question du BAP, est-ce que c'est pas un peu le cache-sexe de leur vraie position de fond, qui est peut-être justement de dire « on devrait pas prendre ce projet-là ». Les gens de Québec solidaire ont le luxe en ce moment de ne pas parler du fond, hein, de ne pas dire ce qu'ils feraient, eux. D'après vous, qu'est-ce qu'ils feraient déjà?
Je sais pas, là. Écoutez, il faut développer l'économie, là, ça c'est certain. Je sais pas s'ils ont une expertise là-dedans.
ça,
j'ai plutôt l'impression que non.
Poser la question, pardon d'accueillir ça en riant, mais plusieurs l'ont dit, là, c'est un peu fantaisiste pour le moment.
Il faut lire leur plateforme électorale,
c'est
effectivement.
Ça coûterait cher, disons.
Oui, mettons. Puis, mais vous savez, le problème, c'est pas que... Le BAP aurait pu évaluer le projet et décider que c'était un projet qui fonctionnait, mais qu'il fallait arranger quelques petites affaires. Le problème,
mais
c'est qu'on l'a voulu contourner.
Deux ans.
Peut-être, en effet. Alors, mais là, on parle du BAP, mais en réalité, on parle de n'importe quel autre moyen d'évaluation qui est contourné de plus en plus par les gouvernements au Québec. C'est pas le problème du BAC en particulier.
Par Fitzgibbonisme.
Exactement, le Fitzgibbonisme. Ça va se retrouver dans le petit Robert 2025, d'après moi, ça. Mais... J'écoutais Frédéric Lapointe. Évidemment, c'est sûr là, que peut-être qu'on se plante puis que dans 10 ans, on va réaliser qu'il y a eu trop de joueurs puis qu'on n'aurait pas dû aller là-dedans. Mais le rôle de gouvernement, c'est quand même de prendre des risques. En ce moment, tout indique que c'est là qu'il faut aller. Hein? C'est l'énergie verte, c'est les batteries parce que là, on va enlever les voitures à essence du réseau autoroutier. Donc là, on va mettre des voies. Donc, je ne sais pas si on va se planter, mais si on n'allait pas là, je ne sais pas où on irait. Hein, parce que c'est les énergies vertes, c'est ça qu'on veut. Vous savez, ça va être l'héritage de François Legault. Hein, parce qu'au niveau identitaire, on retiendra peut-être pas la loi 21 si elle est déboutée en Cour suprême. La loi 96, je pense qu'on réalise de plus en plus que c'est à peu près ça, c'est un baume, ça change à peu près rien. Donc, les pouvoirs en immigration, il ne sera jamais allé les chercher. Donc, si c'est juste ça, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils prennent le risque de contourner, qu'ils prennent le risque de jouer ça en cow-boy un peu, parce que ça lui prend un héritage. Un homme politique a besoin de s'inscrire dans l'histoire, surtout quand il fait deux mandats majoritaires, donc 8 ans. Il faut qu'on se souvienne de lui pour une raison.
Là, il y a la pandémie, hein? Sinon, ce sera ça. En tout cas, pour M. Legault, Frédéric Lapointe, en terminant...
Parce que là, les espaces bleus, je vous coupe la parole, espaces bleus, c'est fini.
Tous les machins bleus, ouais, donc, le panier bleu...
Donc, il n'y a plus rien.
La symbolique est très forte. Hein, Frédéric Lapointe, les projets bleus, l'espace bleu, donc...
Le panier bleu.
Le panier bleu, les espaces bleus, les demandes en immigration. Il y a une sorte de cohérence, là, de message de fond qui nous dit que le nationalisme caquiste était une série de concepts et puis, en fait, il n'y a peut-être pas grand-chose derrière et tout ça est en train de se détricoter.
Moi, espace bleu, panier bleu, moi, je vais utiliser une image peut-être caricaturale, mais disons... Faut vider le frigo, là, les plats avariés du frigo avant de faire l'épicerie puis de revenir avec du nouveau stock. Et le nouveau stock, moi, je vous prédis que mardi, là, c'est le budget du Québec, hein, oui. le 12 mars, une date habituelle. Je vous prédis que les questions d'identité vont faire étrangement partie du budget et qu'il y aura...
Ce serait stratégiquement à viser, en tout cas, pour les caquistes.
Exact, hein? Exact. Et d'ailleurs, ils l'ont identifié. Là, il y avait 5 priorités. Je crois que la 5e, c'est la question de l'identité. Habituellement, ça se répercute dans le budget, parce que le budget est un moment fort du gouvernement, un peu comme un discours de l'Union, hein, pour boucler la boucle avec le début de notre émission. Oui. Et je pense que le gouvernement va avoir des initiatives. Il se peut d'ailleurs que, bien égoïstement, ça touche également la fête nationale ou des questions de fierté, d'identité,
de commémoration. Parce
qu'on rappelle que
vous êtes le président du Mouvement national des Québécois, voilà. Et que, évidemment, ce financement-là, vous, ça vous touche de près. Un dernier sujet en terminant, il nous reste une minute et demie, peut-être, Rémi Villemur. Le festival de jazz, Spectra et son empire vendu à Molson, ensuite Juste pour rire, d'abord à des intérêts hollywoodiens, puis aussi à Molson ou Evenco, ouais. Et puis qui fait faillite finalement. Est-ce que tout ça nous parle un peu d'une sorte de déliquescence du pouvoir culturel francophone à Montréal, d'après vous?
Tout à fait. Tout à
fait. C'est ça qui est en train d'arriver, qui se manifeste à travers ces événements-là?
Oui, puis toute la semaine, les gens ont préféré en rire, préféré dire, ben écoutez, c'était une entreprise subventionnée, ils se sont plantés, ils ont associé évidemment l'entreprise à Gilbert Rozon.
Les déboires de M. Rozon.
Oui, donc ils se sont dit, on va se foutre de sa gueule, donc on va se foutre de la gueule de Juste pour rire aussi. Mais avec le recul, c'est quand même une entreprise qui embauche des gens, qui exporte à l'étranger, qui était avant la vente en 2017, présente sur tous les continents.
Une sorte de fleuron.
Ben oui, ouais. C'était un ambassadeur du Québec à l'étranger, donc comment on peut vraiment applaudir ça? Surtout quand on ne fait que parler de l'emprise de Netflix, de Spotify, de la baisse de l'écoute en ligne de musique, de contenu francophone, les jeunes n'écoutent plus la télé en français. Et là, on a un signal clair que la chute se poursuit et on en rit. Parce que, je ne sais pas, parce qu'on est envieux, parce qu'on est jaloux, parce qu'on... Là, c'est vraiment le petit côté, le petit esprit québécois qui ressort. On se fout de la gueule du fondateur. On aime bien qu'il se pète la gueule, qu'il y ait une marche de plus dans l'escalier, qu'il déboule. Mais on oublie que derrière ça, c'est un symbole qu'on perd. Et on se marre de ça.
J'avais pas remarqué qu'on en riait tant que ça. Ah, écoutez, la pointe en 30 secondes, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, il y a une petite Schadenfreude qui était présent, là, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'événementiel est une force de la culture québécoise. Il faut se sortir de l'environnement numérique. Il faut coloniser l'environnement numérique avec nos propres événements, avec nos propres rires, avec nos propres chants.
Ça, ouais.
Il faut prendre soin de nos festivals.
Très intéressant. Eh bien, à vous deux, merci beaucoup d'avoir été en studio, nous éclairer de vos lumières. Merci, Rémi Villemur.
Merci.
Merci, Frédéric Lapointe. Chers auditeurs, merci à vous d'avoir été, comme toujours, nombreux à l'écoute. C'est un privilège de vous savoir là. Lysandre Duplé est à la mise en onde aujourd'hui. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup. À samedi prochain.